7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
18h39, ailleurs dans le monde, avec vous, Olivier Poujade. Bonsoir.
Bonsoir, Mickaël.
Et direction pour commencer, Olivier, Berlin, où les Allemands viennent d'apprendre une nouvelle absolument sidérante, nouvelle venue tout droit de Russie.
Et plus précisément du ministère de la Défense russe qui a fièrement annoncé hier la construction d'une réplique du Reichstag, l'Assemblée allemande, dans un parc militaire en banlieue de Moscou pour que les enfants russes, écoutez bien, s'entraînent à le détruire. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Cette initiative russe est évidemment, et on les comprend, très mal vécue par les Allemands, Cyril.
Oui, cela paraît impensable, mais c'est pourtant vrai. La Russie va jouer à la guerre avec le Reichstag. Voilà ce qu'écrit aujourd'hui un quotidien berlinois, la Berliner Zeitung, qui résume bien le sentiment d'incrédulité que suscite cette histoire en Allemagne. Un mini Reichstag, on ne sait pas encore de quelle dimension d'ailleurs, va donc faire partie des nouvelles attractions du Parc des Patriotes, qui est situé à Kubinka, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Moscou. Et dans ce parc d'un genre bien particulier, les jeunes russes, futurs recrues de l'armée, peuvent venir participer à des exercices militaires dans des décors réels. La réplique d'un sous-marin, par exemple, ou encore une vraie ligne de front avec tranchées et bunkers. Et bientôt, ils pourront donc s'en prendre au Reichstag comme au temps de la splendeur de l'armée rouge.
Oui, c'est ça, hein, Cyril. Le choix du Reichstag ne doit bien sûr rien au hasard. C'est le symbole de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie.
Et oui, la prise du Reichstag en mai 45 reste dans la mémoire russe comme un épisode majeur de la bataille de Berlin. Tout le monde connaît cette fameuse photo d'un soldat de l'armée rouge hissant le drapeau soviétique au sommet du bâtiment. Aujourd'hui encore, le régime de Vladimir Poutine entretient volontiers ce culte de l'héroïsme soviétique face aux nazis, quitte à instrumentaliser l'histoire pour servir sa propre cause, en faisant par exemple des parallèles entre le nazisme et la politique de l'OTAN en Europe de l'Est, ou même en caricaturant Angela Merkel comme une héritière de l'expansionnisme allemand et donc en quelque sorte du régime nazi.
Et cette histoire, Cyril, tombe au moment où l'Allemagne se retrouve aussi victime de nombreuses cyberattaques en provenance de Russie.
Oui, tous les jours, des attaques ont lieu en Allemagne, hein, contre le Parlement, contre des partis politiques, des entreprises, des réseaux téléphoniques. En novembre, par exemple, une vaste attaque contre le réseau Deutsche Telekom avait affecté 1 million de clients. La menace est devenue quotidienne, a reconnu récemment Angela Merkel, alors que l'armée allemande est en train de renforcer ses effectifs pour faire face à cette cyberguerre où plane l'ombre de la Russie. En Allemagne, comme aux États-Unis et dans une moindre mesure en France, le risque d'ingérence pendant la campagne électorale est aussi bien réel, avec la diffusion massive de fausses nouvelles colportées sur les réseaux sociaux par des sites pro-russes, certains basés en Crimée. À 8 mois des élections fédérales, ici, l'offensive a commencé avec un thème privilégié, la politique d'accueil des réfugiés et toutes sortes de fausses histoires de viols, d'agressions soi-disant commises par des migrants. Objectif, au bout du compte, faire chuter Angela Merkel, symbole de ces valeurs libérales qui exaspèrent le Kremlin.
L'Allemagne dans le viseur de la Russie, donc la correspondance de Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci à vous, Cyril.
Et Olivier, vous avez décidément du nez retour sur cette info que vous nous donniez ici même hier soir.
Oui, sous la pression du mouvement citoyen hongrois Momentum, la candidature de Budapest à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 a été retirée, Michael, hier soir. C'est aussi une victoire politique pour ce jeune mouvement d'opposition au premier ministre nationaliste Viktor Orban.
Et direction maintenant le Japon, Olivier, ce pays où la jeunesse ne croit plus en l'amour.
Une bien triste vérité si l'on se fie aux enquêtes menées par le gouvernement japonais. Ni amour, ni sexe d'ailleurs. 40% des 18-35 ans reconnaissent sans rougir ne jamais avoir eu le moindre rapport. Ça ne les intéresse pas et c'est d'autant plus paradoxal qu'au Japon, l'érotisme et le sexe sont présents partout. Littérature, cinéma, télévision, peut-être trop d'ailleurs. Karine Nishimura Poupée, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes notre correspondante à Tokyo. Karine, comment expliquer ce désintérêt total de ces jeunes Japonais pour la relation amoureuse?
Eh bien, je laisse les intéressés vous répondre en deux mots. Écoutez bien.
Avec l'autre, il faut faire gaffe à des tas de trucs en fait, c'est chiant.
Eh bien oui, c'est un fait, les jeunes Japonais sont de plus en plus réticents à nouer des relations amoureuses et à s'adonner aux plaisirs charnels qui vont généralement de pair, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas, mais qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et trouvent donc cela fastidieux. Selon une enquête récente du gouvernement, 40% des jeunes de 20 à 39 ans encore célibataires disent ainsi ne pas désirer de petit ami, d'abord parce que c'est chiant, mais aussi parce qu'ils ou elles ne veulent pas consacrer leur temps à autre chose que leurs loisirs personnels, ou bien, dans l'actuelle conjoncture incertaine, préfèrent privilégier leur travail ou leurs études. Une des raisons de leur désamour pour l'amour est qu'ils cherchent des modes d'emploi sur Internet et qu'évidemment, ça rate, comme le décrypte l'essayiste Ai Aizawa, éditorialiste du site d'information pratique All About.
Sur Internet, il y a un nombre impressionnant d'articles sur les relations amoureuses. En plus, ce n'est pas une science exacte. Les avis diffèrent selon les personnes. Et du coup, on ne sait pas qui croire. Ça finit par prendre la tête, d'où la conclusion que l'amour, finalement, c'est ennuyeux.
Et ça a toujours été comme ça, Karine, ou les choses ont changé ?
Eh bien, ça a changé et ça a changé avec Internet qui est là encore jugé en grande partie responsable. Selon le professeur Naoki Ogi, les jeunes qui communiquent désormais surtout par smartphone interposé ont plus de contacts virtuels que charnels et sont sur ce plan immatures même lorsqu'ils atteignent l'âge adulte de 20 ans.
Alors les ravages du smartphone ne sont pas propres au Japon, mais on a l'impression qu'il y a dans ce pays un autre rapport au couple, à l'amour, à la sexualité.
C'est si vrai que d'aucuns disent que l'histoire d'amour est un truc qui a été importé au Japon, qui n'existait pas originellement. Ici, le but, c'est de se marier. Si on y arrive, c'est bon. La pression de l'entourage cesse. C'est tellement l'objectif que pour avoir la paix, certains jeunes disent « pas besoin d'amour, je cherche juste quelqu'un à épouser ». Et puis à l'inverse, d'autres assument le fait de ne pas être mariés et trouvent des ersatz sur, je vous le donne en mille, Internet, via des simulations amoureuses par exemple.
Il y a beaucoup de filles notamment qui cherchent à fuir les relations amoureuses et qui constatent que l'histoire idéale, le mec idéal, se trouve en fait dans des jeux de simulation amoureuse ou d'autres contenus en ligne qui alimentent l'illusion. Ils conduisent à penser que dans cet univers de l'image, en fait, il n'y a pas de trahison. Cela constitue un refuge dans lequel ces filles finissent par s'enfermer et renoncer à l'amour réel.
Et demain, peut-être, n'aurons-nous plus besoin d'humains, on aura des humanoïdes moins enquiquinants, ce que semble souhaiter le géniteur d'androïdes le plus connu du Japon, Hiroshi Ishiguro.
Un corps de chair n'est plus une condition pour être humain. Le corps de chair ne définit jamais ce qu'est l'humain. Nous avons déjà changé notre définition de ce qu'est l'humain. Je ne suis pas amoureux de mes androïdes, mais je sais que mes étudiants peuvent l'être. Bien sûr, généralement, les humains ordinaires aiment les humains, mais certains peuvent aimer les robots, d'autres, des personnages de dessins animés.
L'horizon pour voir disparaître la frontière entre humains et robots est de l'ordre du millénaire, selon ce roboticien, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour faire l'amour entre humains.
Le reportage de Karine Nishimura, poupée sur la bien triste virtualité de l'amour à la japonaise.
Olivier Pouja, d'humain, bien humain, merci.